Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et l'heure est venue, comme chaque jour sur Europe 1, de partir pour de nouvelles aventures en compagnie de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous avez bien fait Julia de parler d'aventure, car le périple inouï que nous allons revivre cet après-midi mérite vraiment ce nom. Imaginez ce que représentait en 1956 le fait de partir à quatre avec une petite voiture pour un très long voyage à travers toute l'Union soviétique des temps post-staliniens.
Et l'initiateur de ce voyage impossible est avec nous dans ce studio.
Oui, c'est un homme que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, l'auteur avec Larry Collins de quelques-uns des plus grands best-sellers des années 70 et 80, Dominique Lapierre en personne. Je suis ravi que Dominique Lapierre soit avec nous aujourd'hui.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Dominique Lapierre est notre invité aujourd'hui avec Larry Collins. Il a signé quelques-uns des plus grands best-sellers des années 60 à 80. Paris brûle-t-il ? Où tu porteras mon deuil ? Ô Jérusalem, cette nuit la liberté ? Ou ce fameux cinquième cavalier dont je garde personnellement un souvenir très fort. L'auteur de La Cité de la Joie est avec nous donc pour évoquer un épisode précoce de sa carrière de journaliste, un périple de 13 000 kilomètres à travers la Russie soviétique. On était en 1956 et tout ça se faisait à bord d'une Simca Marly. C'est vraiment, on est là au cœur d'une grande aventure qui était en même temps une mission d'information exceptionnelle. Bonjour Dominique Lapierre.
Bonjour.
On vous connaît évidemment comme grand auteur. On oublie parfois, il ne faudrait pas l'oublier, que vous êtes surtout avant tout un grand philanthrope. Vous faites du bien là-bas en Inde justement. Racontez-nous.
Oui, depuis maintenant 30 ans, depuis ma rencontre avec la mère Teresa, je consacre...
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait partie des rencontres qui marquent, évidemment.
Absolument, absolument. Le symbole mondial de la charité, avec son message qui nous dit à tous, nous pouvons tous changer les choses, faire apporter un peu de compassion à ce monde et aux souffrances. J'ai partagé tous mes droits d'auteur avec une action humanitaire au profit essentiellement des enfants lépreux de Calcutta. Il y a encore 5 millions de lépreux en Inde.
Oui, on oublie en Occident évidemment que la lèpre demeure un fléau, tout ce qu'il y a de plus actuel. Pour nous, ça paraît une maladie historique.
Il y a 15 millions de lépreux dans le monde, et 5 millions sont en Inde, dont un certain nombre naturellement dans cette ville monstrueuse de Calcutta, dans ces bidonvilles. Et avec mon épouse, nous allons chercher des enfants qui sont touchés par cette maladie terrible. Nous les guérissons. Mais en plus, ils sont toujours atteints par la tuberculose, par un tas d'autres maladies qui les détruisent complètement. Et c'est dommage parce que l'autre jour, à Calcutta, figurez-vous, tout d'un coup, un garçon qui s'appelle Ashu, qui a aujourd'hui 18 ans, et que j'ai ramassé dans un bidonville, il avait 6 ans, il était lépreux, a brandi une feuille de papier et m'a crié « Grand frère Dominique, regarde, regarde !» Cette feuille de papier, c'était son diplôme d'ingénieur mécanicien. Si j'ai vraiment eu le sentiment, pour une fois, d'avoir arraché à la destruction un enfant de ce monde, la mère Teresa disait souvent « Sauver un enfant, c'est sauver le monde », eh bien, c'était cet Ashu, parce que demain, il va trouver un emploi, il va pouvoir construire une maison pour arracher sa famille à toute la misère de son bidonville. C'est un sauvetage extraordinaire.
Une récompense pour vous et pour beaucoup, un exemple. Nous allons parler aujourd'hui d'une aventure dans laquelle Europe 1 a eu sa part, ou toute petite part, mais on vous avait prêté le magnétophone, si je ne m'abuse.
Figurez-vous que le 14 juillet 1956, je suis arrivé au volant de cette Simca Marly décorée au nom de Paris Match et de Marie-Claire, devant le garage d'Europe 1, la rue François 1er. Et c'est un garçon qui s'appelait Georges Filloux, qui allait avoir une carrière
qui nous a quitté il y a peu de temps,
et qui vient malheureusement de nous quitter, qui a installé sur notre voiture un appareil qui allait nous permettre de faire des émissions de radio tout au long de ce voyage extraordinaire, comme vous l'avez dit, de 13 000 kilomètres à travers l'Union soviétique.
Un voyage, un périple inouï que nous allons revivre ensemble. Et une fois n'est pas coutume, si vous voulez interrompre le récit et vous immiscer dans ce que je vais raconter, vous êtes bien entendu le bienvenu, Dominique Lapierre.
Franck Ferrand sur Europe 1. au cœur de l'histoire.
Place maintenant au récit d'au cœur de l'histoire avec Franck qui s'intéresse aux préparatifs de Dominique Lapierre pour son voyage en Russie.
À 25 ans, Dominique Lapierre est journaliste à Paris Match, autant dire qu'il aime l'aventure et la liberté. Son rêve, traverser la Chine en automobile. Un rêve optimiste puisqu'on est en 1956, vous voyez un peu le contexte géopolitique, il est très difficile d'entrer dans la nouvelle Chine communiste. Pourtant, Dominique se voit déjà partir avec un certain Jean-Pierre Pedrazzini, 27 ans, photographe dans la même maison. Au sein de Paris Match, on l'appelle Pedra. Son courage, sa valeur comme professionnel, comme photographe, le rendent très populaire au sein de la rédaction. Il possède une sorte d'aura parce qu'il a été victime d'une terrible agression de la part des agents de sécurité de la princesse Margaret d'Angleterre alors qu'il était en reportage aux Caraïbes. Ils l'ont attaqué sur une plage, ça lui, c'est un peu ses faits d'armes. Avec son profil de dieu grec, nous dit Dominique Lapierre, sa haute stature, sa tignasse en désordre et son inséparable trench coat, il ressemble à Mermoz, le célèbre aviateur français vainqueur de l'Atlantique Sud. Or, Pedra se montre, c'est le moins qu'on puisse dire, dubitatif à l'idée de rejoindre la Chine. Il est surpris par la déraison de son jeune confrère. « Pourquoi ne pas demander à Match de nous envoyer sur la Lune » s'esclave-t-il. « Comment peux-tu imaginer ?» C'est donc Jean-Pierre Pedrazzini qui parle à Dominique Lapierre. « Comment est-ce que tu peux imaginer une seconde que les Chinois vont ouvrir leurs portes à quatre touristes capitalistes en voiture ? D'abord, il n'y a même pas de route en Chine. Il faudrait disposer d'une Jeep et encore. » Mais Dominique Lapierre persévère et lui propose aussi la Russie. « Imagine, Jean-Pierre, que nous puissions nous élancer sur la route de Napoléon vers Moscou, traverser l'Ukraine, dormir dans un kolkhoz, habiter chez un cheminot de Minsk, chez une vendeuse de grands magasins à Stalingrad, chez un médecin à Tiflis, planter notre tente dans le Caucase, pêcher les sturgeons avec les pêcheurs de la Volga, nous griller au soleil à Yalta. Imagine que tes photos et mes récits fassent découvrir tout à coup, en toute objectivité, la vie des Russes qui nous accueillent portes ouvertes spontanément sur des milliers de kilomètres qui n'appartiennent ni à l'enfer ni au paradis, mais à l'histoire des hommes. » Et là, Jean-Pierre Pedrazzini répond « Pourquoi voudrais-tu que les Russes nous laissent voir tout ce qu'ils s'acharnent à cacher derrière un rideau de fer ?» Seulement, Dominique Lapierre croit dur comme fer en son projet. Et il propose même ce voyage à sa femme, qui a l'air partante. Il décide de porter un dossier complet aux ambassades russes et chinoises à Paris. Leur accueil n'est pas vraiment encourageant, c'est le moins qu'on puisse dire. Face à cette impasse, les deux jeunes reporters prévoient des destinations de vacances tout à fait différentes pour l'été. Croisière sur un voilier autour des côtes de Corse pour Jean-Pierre, ouest américain pour Dominique. Et là, soudain, une dépêche d'agence tombe en provenance de Moscou. Elle indique que Nikita Khrushchev, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, vient de prononcer à huis clos devant le 20e congrès du parti un violent réquisitoire dénonçant les crime de Staline. C'est le début de ce qu'on va appeler la déstalinisation. Ça, c'est un événement très important et ça change la donne, évidemment. Dominique Lapierre décide d'écrire à Khrushchev en personne. Il adresse une missive au premier secrétaire du Parti communiste soviétique. Sa lettre est donc envoyée au Kremlin. Et il continue de rendre, pendant ce temps-là, régulièrement visite aux ambassades de Chine et d'Union soviétique, avec un espoir qui néanmoins est un peu mitigé. À Paris Match, on apprend à ce moment-là que l'ancien président de la République, Vincent Auriol, comme on dit, Vincent Auriol, va se rendre avec son épouse à Moscou. Il répond à l'invitation du maréchal Bulganine, qui est président du Conseil des ministres de l'URSS. Il s'agit d'une rencontre informelle avec les principaux dirigeants soviétiques et d'un voyage à travers plusieurs régions du pays. Là, évidemment, le reporter saute sur l'occasion, il appelle son copain Jean-Pierre. « Il faudra peut-être que tu décommandes ton voilier pour la Corse. Vincent Auriol va à Moscou et Paris Match est d'accord pour nous envoyer couvrir sa visite. » Deux jours plus tard, Dominique et Jean-Pierre rencontrent Vincent Auriol. Au cours de la conversation, Dominique en profite pour lui confier leurs intentions de voyage. Et la réaction de l'ancien président est enthousiaste. « Les Russes vont sauter de joie, leur dit-il. C'est une occasion unique pour eux de faire connaître leur pays et de montrer qu'ils n'ont plus rien à cacher. » Ça, c'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais en tout cas, le président Auriol est prêt à les aider. Il sera l'avocat de leur projet. Quelques jours plus tard, la délégation française décolle. Dès son arrivée en Russie, on profite évidemment de tout le décorum soviétique, hein, tout ce luxe. Les barons du régime sont tous là. On trinque sous les chandeliers de cristal de la salle du trône du Kremlin. On déguste le caviar à la louche ou encore la truite fumée, enfin tous ces plats qui font l'hospitalité russe. C'est à ce moment-là que Vincent Riol présente donc Dominique Lapierre et Jean-Pierre Pedrazzini à Bulganine. Et puis, il croise Nikita Khrushchev, le numéro un d'un empire qui s'étend sur un quart de la planète, le chef d'une puissance thermonucléaire avec laquelle seule l'Amérique d'Eisenhower peut prétendre se mesurer, nous dit Dominique Lapierre. Et là, l'ancien président Riol prend la parole. « Savez-vous, chers camarades, comment ces deux jeunes intrépides veulent passer leurs prochaines vacances » demande-t-il. Eh bien, ils prétendent parcourir votre pays en automobile avec leurs épouses pour réaliser un portrait de l'URSS d'aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire est que ça n'est pas très bien accueilli, cette idée-là. Silence glacial de l'autre côté, un certain malaise s'installe, les visages se tendent, et puis Khrushchev éclate de rire. Le premier secrétaire goguenard s'écrie « Oh, c'est une très mauvaise idée, camarade président. Nos routes sont tellement exécrables que les épouses de vos protégés demanderont le divorce au bout de 15 jours. » La fête reprend, le voyage pour l'instant a l'air d'être plutôt mal parti. Et le jour du départ pour la France, sur la passerelle de l'avion, Vincent Riol se montre délibérément optimiste. « Gardez confiance, dit-il au jeune reporter, il y a quand même une petite chance. » Le projet de Dominique et Jean-Pierre, pour l'instant, est un peu au point mort.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck y reçoit aujourd'hui Dominique Lapierre, journaliste, écrivain, philanthrope, auteur de « Il était une fois l'URSS » chez Robert Laffont, réédité en pocket. Et c'est précisément ce voyage qu'il nous raconte.
Retour d'Union soviétique, nos deux reporters préparent un reportage qui est publié le 24 mars 1956 par Paris Match. Titre du reportage, à Tiflis la stalinienne, le matin des troubles, reportage de nos envoyés spéciaux avec le président Riol, Dominique Lapierre et Jean-Pierre Pedrazzini. En fait, il faut vous dire que quelques heures après le départ de la délégation française de Tiflis, de graves troubles ont éclaté. Je dis bien après le départ. L'émeute a commencé par une manifestation d'étudiants en faveur de Staline. Il faut imaginer des milliers de jeunes qui parcourent la ville en brandissant des pancartes et en accusant Khrushchev d'avoir voulu abattre l'idole du pays dans son fameux discours du 20e congrès. La rumeur circule qu'il y aurait eu près de 7000 morts. Avec un article pareil, évidemment, nos amis risquent d'être assez peu en odeur de sainteté du côté du Kremlin. Autant dire qu'ils tirent un trait sur leur projet. Mais, 4 mois plus tard, un matin de la fin juin, alors qu'ils s'apprêtent à partir en vacances, ils reçoivent à Paris Match un télégramme de Vladimir Ilitchev, qui est le très redouté président de l'Intourist, vous savez, cet organisme qui contrôle tout le tourisme étranger en Union soviétique. Et voilà ce que dit le télégramme. « Messieurs Lapierre et Pedrazzini, je ne vais pas le faire avec l'accent russe puisque c'est un télégramme, vous communiquons notre accord à votre projet de voyage en automobile à travers l'Union soviétique. Vous pénétrerez sur le territoire soviétique par la ville frontière de Brest-Litovsk. Votre itinéraire comprendra les villes de Minsk, Moscou, Kharkov, Kiev, Yalta, Sourgoumi, Sotchi, Tiflis, Krasnodar, Rostov, Stalingrad et Kazan. » Seront heureux de discuter avec vous les détails de cet itinéraire. À votre arrivée à Moscou, vous prions de nous faire connaître la date de votre entrée à Brest-Litovsk afin que nous puissions avertir notre représentant. Visa vous attendent à l'ambassade soviétique à Paris.
Concerto pour violon de Tchaïkovski sur Europe 1, puisque Franck Ferrand nous plonge aujourd'hui au pays des soviets.
Dominique Lapierre et Jean-Pierre Pedrazzini n'en reviennent pas. Le télégramme de l'Intourist qui les autorise à entrer derrière le rideau de fer, à entrer dans l'Union soviétique et à aller visiter toutes ces villes, à faire un véritable reportage que personne avant eux n'avait osé espérer, ce télégramme les a bouleversés. Ils annulent évidemment leurs vacances, l'un en Corse, l'autre aux États-Unis, et ils préparent leur départ. Il faut d'abord trouver une voiture. Dominique a le coup de foudre pour un break exposé dans la vitrine de Simca en haut des Champs-Élysées. C'est le dernier modèle de la marque. On appelle ça à l'époque une Marly. Le directeur commercial envisage le projet avec enthousiasme. Il décide de prêter la voiture. Alors, tout à l'heure, Dominique Lapierre vous l'a dit, Europe 1 confie un magnétophone un peu amélioré tout de même. Paillard, une caméra 16 mm. Kodak, des pellicules. Aliette, la femme de Dominique Lapierre, qui se trouve être conseillère mode au BHV, au bazar de l'hôtel de ville, se fait prêter tout un matériel de camping. Annie, l'épouse de Jean-Pierre Pedrazzini, met de côté toute une petite cargaison de Tour Eiffel, d'Arc de Triomphe en bakélite, de foulards, de plans de Paris, etc. Des échantillons de parfums, tout ça pour servir de souvenir ou de, j'allais dire, un peu de monnaie d'échange. Et le 14 juillet, Lapierre, Pedra et leurs épouses sont fin prêts. Ils traversent les campagnes françaises, suisses, allemandes. Ils passent par Berlin, qui à l'époque est encore coupé en quatre zones, évidemment. Et c'est le début des 13 000 kilomètres qu'ils vont parcourir. Quel souvenir, Dominique Lapierre, quelle extraordinaire expédition. Et quelle était l'image que vous vous faisiez de l'Union soviétique avant d'y pénétrer?
Mais pour que nos auditeurs, Franck, comprennent bien toute l'extravagance ce projet, il faut savoir que jamais dans l'histoire, une automobile immatriculée à l'étranger n'avait franchi le rideau de fer.
Et pareillement équipé. C'est-à-dire que là, vous pouvez tout filmer.
Un dentiste américain avait voulu embarquer sa Jeep vers Moscou. Il avait été immédiatement arrêté. Sa Jeep avait été renvoyée. Jamais quatre roues occidentales n'avaient pénétré en Union soviétique. Donc c'était absolument unique.
Vous quittez l'Allemagne évidemment, vous entrez en Pologne. Première chose qui va vous marquer, c'est une odeur, c'est une espèce d'odeur de désinfectant.
L'odeur de désinfectant. Ça, à Varsovie, ça commence. Et ça, cette odeur va nous suivre jusqu'au bout de notre voyage, jusqu'au fin fond de l'Oural. Cette odeur de savon désinfectant, c'était l'odeur vraiment du communisme. Mais la première rencontre que nous faisons, quand nous pénétrons, franchissons le pont qui sépare la Pologne de l'Union soviétique et nous entrons dans la ville de Brest-Litovsk.
Donc là, vous êtes en URSS.
En URSS, une ville historique, puisque c'est là que les Russes avaient signé en 1917
la paix séparée
avec l'Allemagne. Nous sommes accueillis par une vieille dame avec un fichu autour de la tête, une babouchka vraiment dans toute sa beauté. Elle parle un français extraordinairement beau et elle nous dit « Messieurs, est-ce que je peux vous demander une faveur ?» On lui dit « Bien sûr, madame. Est-ce que vous accepteriez de dégonfler l'une de vos roues ?» Et je lui demande « Pourquoi ?» Elle me dit « Je voudrais respirer l'air de Paris. »
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Précisément au cœur des pérégrinations en URSS du journaliste Dominique Lapierre, avec notamment cette anecdote truculente autour de Babouchka, Franck.
La Babouchka voulait respirer l'air de Paris. Alors vous aviez vu quand même à la frontière pas mal de militaires soviétiques, évidemment.
Bien sûr.
Et parmi eux, un homme en civil à lunettes, grand et blond, un peu joufflu, qui vous dit « Soyez les bienvenus en Union soviétique. Je m'appelle Stanislav Ivanovitch Petukov. Vous pouvez m'appeler Slava. » Et je suis reporter à la Komsomolskaya Pravda, le quotidien des jeunesses communistes. Vous avez proposé qu'un journaliste soviétique vous accompagne pendant votre voyage. Eh bien voilà, c'est moi. Il sera donc en quelque sorte votre cicérone et celui qui va vous accompagner pendant le périple.
Oui, parce que nous avions eu l'astuce de proposer qu'un journaliste soviétique et sa femme puissent nous accompagner à travers le pays. Et
Ils étaient au sens propre l'œil de Moscou.
Oui, mais ce qui va se passer va montrer finalement, il ne sera pas tellement l'œil de Moscou. Il découvrira son pays avec nous parce qu'il ne le connaissait pas. Et ça a été une expérience merveilleuse.
Ce que vous lui avez annoncé d'emblée, c'est que votre ambition était d'aller rencontrer les soviétiques chez eux, d'aller au devant d'un certain nombre de familles pour pouvoir rendre compte de la vie quotidienne de ce peuple dont on ne savait, encore une fois, quasiment rien. Et ce qu'il vous répond, c'est que ça n'est pas du tout dans les habitudes, que les soviétiques ne sont pas du tout habitués à ça et que déjà, pour commencer, on n'a pas l'habitude de voir des étrangers de ce côté-ci du rideau.
Absolument. Et alors, surtout, nous ne voulions pas que ça soit une autorité autorités supérieures, le KGB ou autre, qui nous impose une rencontre avec tel ou tel dans telle ou telle ville. Nous voulions vraiment surprendre les gens sur leur lieu de travail, là où ils étaient, et leur demander qu'ils nous emmènent chez eux. Et alors, nous sommes aperçus que la voiture allait devenir...
C'était votre ambassadeur.
Pôle d'attraction inimaginable. Parce que chaque fois que nous nous arrêtions quelque part, c'était des centaines de personnes qui s'agglutinaient autour de cette Marly. Songez que les soviétiques n'avaient jamais vu une voiture en deux couleurs. Songez qu'ils n'avaient jamais vu une voiture dont le lave-glace permettait de laver le pare-brise en même temps que les essuie-glaces. J'ai utilisé plus d'eau à montrer comment fonctionnait le lave-glace de la Marly que je n'en ai utilisé dans le radiateur. Ça a été une surprise perpétuelle.
Vous avancez sur la route de Minsk avant d'aller jusqu'à Moscou. Vous êtes sur des routes qui sont dans un état assez pitoyable. Et vous voyez d'extraordinaires panneaux de propagande. Le mot n'est pas trop fort. C'est ce qui vous frappe d'abord.
Absolument. Et je demande à Slava, mais pourquoi d'abord vous parlez de la paix, sans arrêt de la paix? Parce que tous ces panneaux disent la paix au monde entier, la paix à tous les peuples, l'URSS veut la paix. Et puis après, ce sont des panneaux qui appellent les paysans à faire pousser des betteraves encore mieux, les cheminots à faire marcher les trains encore mieux.
C'est parce qu'il faut dire qu'en Union soviétique, ce sont les chemins de fer qui servent essentiellement, surtout à cette époque, qui servaient au transport.
Absolument.
Il n'y avait pas encore vraiment... Enfin, l'avion était vraiment balbutiant.
Non, utilisé par très, très peu de gens.
Et pas de voitures, ou très peu de voitures.
Pratiquement pas. Et alors, notre premier problème, qui va vraiment être un problème terrible, ça va être l'essence. Parce qu'il n'existait à l'époque qu'une seule pompe qui vendait du 95, enfin ce qu'on appelle le super en France, devant l'hôtel impérial à Moscou, jusqu'à Vladivostok, à 10 000 km, il n'y en avait pas d'autre. Et l'essence qu'on allait nous vendre sur les routes était pleine de briques pilées, de sable, de détritus qui allaient mettre vraiment à mal, qui allaient faire souffrir, qui allaient crucifier notre beau 8-cylindres de notre Marly. Ça allait être notre première difficulté.
Alors, premier contact avec l'habitant à Minsk chez ces cheminots. Il faut raconter cette première plongée, si je puis dire, dans le quotidien soviétique.
Alors nous allons à la gare,
c'est ça.
Et puis j'avise un cheminot qui avait une bonne tête, qui avait l'air sympathique, et je dis à Slava, voilà, nous allons le prendre lui. Où est sa femme? Ah, mais sa femme, elle travaille. Nous allons aller la chercher. Et où ils habitent?
J'ai envie de dire, quand j'entends ça, que vous les avez pris par surprise.
Absolument, on les a violés, carrément. Et finalement, le soir même, nous entrions chez ce cheminot, avec sa femme, où nous allions rencontrer sa fille qui travaillait là aussi. Et nous allions découvrir la vie de ces gens sans qu'elle ait été enjolivée ou préparée.
Ce cheminot bénéficie quand même d'un régime un peu...
D'abord, il est membre du parti. Il est de travailler dans les chemins de fer, ça vous donnait une certaine autorité, une certaine dignité.
Il était assez bien payé.
Et finalement, leur intérieur était modeste, mais était assez correct quand on sait que 99% des soviétiques vivaient dans des petites boîtes dont les commodités étaient communes à l'étage. Et lui avait quand même l'eau courante dans sa... Et donc on passe... Et alors là, nous sommes pour la première fois vraiment l'objet de cette hospitalité russe. Parce que...
elle est immémoriale et n'a pas grand-chose à voir avec le régime.
Miraculeusement sortent des tas de bonnes choses. Et ils descendent au premier gastronome, comme on l'appelle, c'est l'épicerie locale. Ils vont acheter tout ce qu'ils peuvent. Et nous passons deux jours merveilleux avec eux à reconstituer leur existence.
Au total, combien de ces foyers soviétiques aurez-vous visité?
Écoutez, alors à Moscou, nous voulions raconter l'histoire d'une vendeuse du grand magasin du Galeries Lafayette de Moscou, qui est le Goum.
Mais sont sur la place Rouge même.
La place Rouge même, c'était vraiment un capharnaüm extraordinaire, un caravansérail. Et le matin, nous allions à 6h30 du matin, parce que le magasin ouvrait à 7h, et à 7h, il y avait déjà une queue qui rentrait dans ce magasin, parce qu'il y avait des soldes dans certains des comptoirs de ce magasin. Et puis nous nous sommes arrêtés un jour devant une jeune femme qui était au rayon des cosmétiques, de la parfumerie, et elle était charmante, et on a dit, voilà, c'est celle-là, nous voulons raconter sa vie. Et nous n'allions plus la quitter pendant plusieurs jours, nous allions aller chez elle, nous allions rencontrer son fiancé, ses parents, sa famille, pour raconter vraiment une histoire qui ne nous avait pas été imposé du tout, mais que nous avions sélectionné au départ.
Vous n'avez pas l'impression d'avoir été, d'une façon ou d'une autre, piloté même dans l'ombre ?
Impossible, impossible. Alors, il aurait fallu piloter les 2500 vendeuses du Goum et les 500 000 cheminots de l'Union soviétique.
Mais on sait bien qu'au KGB, rien n'est impossible.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous retrouvons Franck avec son invité sur Europe 1, le journaliste et écrivain Dominique Lapierre.
Alors de Moscou, on va bientôt passer avec vous, Dominique Lapierre, en Ukraine. Une question qui domine l'ensemble de votre livre quand même. Vous vous dites, mais comment ce régime a-t-il réussi? On est en 1956, 3 ans après la mort de Staline et en plein début d'une déstalinisation qui connaîtra encore quelques belles années avant une nouvelle glaciation. Comment ce régime a-t-il réussi à faire croire à un peuple entier privé de liberté qu'il était le plus heureux de la Terre?
Eh bien, par une propagande effrénée de tous les moments. Il faut savoir que tous ces Russes que nous rencontrions sur les routes ou dans les villes étaient des gens qui n'avaient pas accès à la télévision occidentale ni à la radio, qui étaient véritablement, jour et nuit, faisaient l'objet d'une propagande absolument effrénée. Et le meilleur témoin, c'était ce journaliste soviétique que nous avions, Slava, qui était vraiment tellement persuadé dans son fort intérieur.
Et c'était parfois... Vous l'avez vu évoluer à mesure que le voyage se développait.
Oui, mais j'avais une sorte de remords. Je me disais, de lui faire changer d'idée, de lui faire comprendre que toute cette propagande dont il est victime est une propagande qu'il intoxique et que ça n'est pas vrai. Je me disais, au fond, lui, il va rester, moi, je vais sortir.
Et oui.
Je n'ai pas le droit de démolir, de détruire ses illusions, de détruire tout ce qu'il pensait.
Alors, on avait l'in touriste local en Ukraine, vous a prévu la visite d'un certain nombre de kolkhoz un peu modèles, et vous choisissez, vous, comme toujours, le vôtre ?
Absolument, au bord de la route, et nous y rentrons. Et là, nous nous retrouvons presque avant la révolution soviétique, dans le monde du tsar, puisque nous rentrons dans une izba dont le propriétaire est un vieux russe qui a dans sa propre maison une photo du tsar encore. Hein, et nous sommes 40 ans après Staline. Et puis, nous interrogeons tous les gens et nous essayons de comprendre pourquoi certaines vaches soviétiques sont stakhanovistes, pourquoi certaines produisent 18 litres de lait et d'autres 25 litres de lait, nous faisons une enquête absolument unique.
On est en 1956, à une époque où le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est évidemment encore
partout,
très présent.
Hein. Partout, partout, dans tous les villages que nous traversons, il y a des monuments aux morts, il y a des tanks calcinés, des canons, tout. Vraiment, nous avons vraiment réalisé quelle horreur avait été pour les Russes, quelle souffrance avait causé cette Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens qu'en arrivant à Tiflis et en rencontrant...
Alors vous revoyez Tiflis finalement, puisque vous y étiez avec Auriol.
Nous étions avec Auriol, mais nous revenons cette fois pour rencontrer à l'hôpital central de Tiflis quelqu'un que nous choisissons parmi les docteurs et les chirurgiens qui sont là. Et nous allons passer 3 jours extraordinaires avec cet homme qui avait été un des héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons reconstitué
avec lui. Il était chirurgien en fait.
Il était chirurgien, oui. Absolument. Mais l'une des rencontres les plus extraordinaires que nous allions faire, ça a été sur la mer Noire, dans la petite ville de Sotchi. La nuit venait de tomber, nous venions de nous arrêter, quand tout d'un coup, une voix avec un accent de Marseille absolument extraordinaire nous dit « Je voudrais vous parler, je suis un Arménien et j'ai des choses à vous raconter ». Alors, nous lui avons donné l'adresse de notre hôtel. Il est venu nous voir ce soir-là, cet homme.
Georges Manoukian.
Et c'était un Arménien qui, en 1946, juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avait entendu les sirènes de la propagande soviétique. Il habitait Marseille avec tout un groupe, toutes des familles d'Arméniens. Et ils étaient rentrés en Union soviétique. Et là, ils avaient découvert l'enfer. Et il leur raconte à notre magnétophone d'Europe 1... Il raconte la vie de bagnard qu'il a vécue. Et pour s'échapper un jour, il a mis 12 chats dans un sac sur son dos. Il a sauté dans la rivière qui sépare l'Union soviétique à un certain endroit de la Turquie. Et il a lâché les chats pour que les chiens policiers des gardes qui surveillaient cette rivière partent. Il a été rattrapé. Il a fait 10 ans de camp de concentration. Et il nous a supplié d'intervenir auprès des autorités soviétiques à Moscou, de l'ambassade de France, pour qu'il reçoive un visa de sortie et qu'il rentre en France. Alors, 3 ans après, je trouve devant ma porte, avenue Kléber, à Paris, un soir en rentrant, un bouquet avec 100 roses rouges et une carte de visite qui dit « Merci, Georges Manoukian ». Il avait fini par être libéré. Je suis allé le voir à Marseille, où il avait retrouvé la rue des Cordonniers. Je suis allé l'embrasser et il m'a raconté comment il était sorti de l'Union soviétique et qu'il s'était installé enfin en France. Ça a été pour moi vraiment, parce que j'étais intervenu auprès de la police, auprès de toutes les autorités du ministère de l'Intérieur, même auprès du ministre de l'Intérieur qui m'avait dit « Mais monsieur Lapierre, vous êtes d'une naïveté inimaginable. Si un jour les Russes donnent un visa de sortie à Georges Manoukian, c'est qu'il sort comme un espion du KGB. » Je lui dis « Peut-être qu'il sortira comme un espion du KGB. » Mais après ce qu'il a vécu en Union soviétique, je peux vous certifier que 3 jours après son retour à Marseille, il ne sera plus qu'un Marseillais comme les autres.
Vous aviez donc ce magnétophone d'Europe 1, vous aviez le Leica, vous aviez évidemment tout simplement votre talent incroyable pour raconter votre cahier. Qu'est-ce que vous avez fait de tout ça, de cette incroyable expérience ?
Eh bien, nous avons fait une série d'émissions pour Europe 1. Jean-Pierre a fait un merveilleux reportage photographique qui a fait plus de 50 pages dans Paris Match. Et puis, j'ai écrit le récit, et en particulier ce dernier livre qui a été publié récemment aux éditions Lafon, qui s'appelle « Il était une fois l'URSS » avec 30 pages de photos et qui raconte vraiment un voyage que personne n'avait jamais pu faire.
« Il était une fois l'URSS » est effectivement chez Robert Lafon, réédité en pocket. Je rappelle, parce que vous avez commencé par ça et j'ai très envie qu'on finisse de cette façon, je rappelle le nom de votre association Action pour les enfants lépreux de Calcutta. Le site internet, c'est citedelajoie.com. Merci infiniment.
Savoir que la moindre don compte. Sauver un enfant pendant 8 jours, ça coûte 10 euros.
Merci beaucoup, Dominique Lapierre. Bonjour, Elena Morna.
Bonjour Franck, ça y est, j'ai le micro ouvert. Écoutez, aujourd'hui nous allons essayer de sauver effectivement aussi des enfants, des hommes, des femmes qui sont victimes de violences psychologiques dans le couple. Comment vaincre le harcèlement moral et comment s'en remettre ? C'est la question des experts et nous vous invitons, chers auditeurs, à témoigner si vous le souhaitez au 3921 ou sur europe1.fr.
Merci Elena, à demain Julia.
Je serai là, à demain sur Europe 1 France.